RFI Matin.
À la une du prochain journal dans 17 minutes, les élections législatives au Royaume-Uni, les Britanniques aux urnes aujourd'hui, les sondages prédisent une victoire des travaillistes. Ce serait la fin de 14 années de pouvoir conservateur, en appelle Emeline Vin, notre correspondante à Londres. En France, c'est dimanche que l'on vote et à 3 jours du second tour des élections législatives, le Rassemblement National fait toujours la course en tête dans les enquêtes d'opinion. Hier soir, il y avait foule place de la République à Paris, une mobilisation contre l'extrême droite à l'appel de plusieurs associations et syndicats. Reportage à 8h. Également à la une, Joe Biden, le président américain, avec de gros doutes quant à sa capacité à poursuivre la campagne pour la présidentielle de novembre. D'après le New York Times et CNN, le président candidat réfléchirait lui-même à l'opportunité de maintenir ou non sa candidature. Jusque-là, la Maison-Blanche dément catégoriquement. Le journal, c'est donc à suivre à 8h, heure de Paris. Et tout de suite les sports en direct avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
On commence par le football. Tous les regards se tourneront vers Johannesburg tout à l'heure à 12h30, temps universel.
Oui, à l'occasion du tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Première étape vers une CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les 48 équipes engagées sont réparties en 4 chapeaux. Leur sort sera entre les mains d'Emers Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et de Marwan Chamakh, légende du football marocain.
Au Niger, à une journée de la fin de la Super League de football, on connaît le nouveau champion.
Oui, tout à fait. L'AS Garde Nationale s'est adjugé le titre grâce à sa victoire 3-1 face à l'AS Douane. Sixième titre pour les 100 et or de Niamey, le deuxième d'affilée après 2023. Donc, ils représenteront le Niger en Ligue des Champions la saison prochaine. Et s'ils se projettent déjà vers la suite, l'entraîneur Cheikh Omar Diabaté peut savourer.
C'est une fierté pour moi d'amener ce club à ce niveau. Ça fait 2 ans que je suis avec eux. L'année dernière, on a fait le doublé. Cette année, on a le titre de champion. Et il y a un travail qui a été fait. Le reste, c'est de continuer dans ce sens. On est obligé de renforcer notre équipe parce que le statut qu'on a vraiment a besoin d'être renforcé. On a besoin d'un offensif, 2 offensifs si la situation nous permet, parce que notre meilleur buteur va partir nous laisser. Pratiquement depuis 2016, je n'avais pas eu de titre, si ce n'est pas l'année dernière et cette année. Donc c'est une satisfaction totale.
Et l'attaquant international Zachary Victorien Adebayor a terminé meilleur buteur de ce championnat du Niger avec 28 réalisations.
En basket, les 4 tournois de qualification olympique se disputent en ce moment et chaque vainqueur obtiendra son ticket pour les Jeux de Paris.
Pour l'instant, seul le Soudan du Sud est assuré d'y représenter l'Afrique. Le Cameroun a manqué son entrée hier à Riga en Lettonie, défaite rageante face au Monténégro 70-66. Tout à l'heure, c'est déjà le match de la dernière chance pour les Camerounais face au Brésil à 16h, temps universel. Pour la Côte d'Ivoire, ça se passe à Porto Rico, les éléphants du basket qui peuvent eux aussi nourrir des regrets. Une défaite 97-93 face à la Lituanie, 6e du dernier mondial. Nacho Lescano, le sélectionneur espagnol de cette équipe ivoirienne, préfère donc se réjouir de la belle prestation de ses joueurs.
On a fait un très bon match, c'est le match qu'on voulait, c'est le match pour lequel on s'est préparé. On a commencé avec un bon état d'esprit, on a mis de l'énergie, de la concentration. Je pense qu'on a gardé cet état d'esprit, cette énergie et cette concentration pendant tout le match. Tout le monde pensait peut-être qu'on allait sortir de notre match et que la Lituanie allait prendre l'avantage au score. Mais on a mis nos paniers petit à petit. Et même si on est redescendu après les avoir menés au score, on a toujours gardé le moral jusqu'à la dernière minute. On a aussi fait un super effort et un excellent travail. Je ne peux donc que féliciter mes joueurs. Maintenant, on va se reposer et encore une fois se reconcentrer pour affronter le Mexique, dont l'effectif et le style de jeu sont complètement différents de ceux de la Lituanie.
Des propos recueillis par Molamine Sissavané. Et si la Côte d'Ivoire parvient à venir à bout du Mexique ce soir à 21h30, temps universel, elle rejoindra les demi-finales.
Merci à vous Victor Missistrano. Vous revenez dans une demi-heure pour nous parler du Tour de France cycliste et de l'Euro de football notamment. Comment éviter la rupture avec les trois pays du Sahel central, le Mali, le Niger et le Burkina Faso? C'est le principal enjeu du sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui aura lieu ce dimanche à Abuja. Il faut repenser la gestion des coups d'État en Afrique de l'Ouest, dit un rapport qui vient de sortir. L'Institut d'études de sécurité préconise de réviser le régime de sanctions contre les auteurs de putsch. On en parle avec Faïraman Rodrigue Conné, il est le chef du projet Sahel de l'ISS. Il est l'un des 7 auteurs de ce rapport et c'est notre invité Afrique avec Christophe Boisbouvier.
Faïraman Rodrigue Conné, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous qu'il faut repenser la gestion des coups d'État en Afrique de l'Ouest?
Je pense que cette suggestion s'impose à la lumière de l'actualité. Nous constatons que la CEDEAO en particulier a de la peine à pouvoir clairement agir sur ces transitions, alors qu'elle avait toute cette influence il y a quelques années. On constate clairement qu'elle semble ne pas réussir à mettre la pression sur les auteurs actuels des coups d'État dans la région. Et l'institution elle-même reconnaît qu'il y a besoin de pouvoir se réformer et s'adapter de sorte à pouvoir faire face à ces crises. Le 24 février passé, qui était le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, le président en exercice, le président Tinubu, a appelé un réexamen de l'approche de l'organisation de sorte à enrayer cette dynamique des coups dans la région.
Quelles sont, à votre avis, les raisons pour lesquelles la CEDEAO n'a pas réussi à contrer efficacement la menace terroriste ces 12 dernières années dans 3 de ses pays membres?
Il faut dire, dans cette phase de la lutte contre le terrorisme dans la région, il y a eu plusieurs forces ad hoc qui ont été mises en place et qui ont affaibli son leadership. On va se rappeler, par exemple, de la force multinationale mixte qui a été mise en place en 2014 pour lutter contre Boko Haram. En 2015, de la mise en place du G5 Sahel et en 2017, de l'initiative d'Accra. Toutes ces forces ad hoc mises en place même par les chefs d'État de la région ont donc créé des formes de rivalités institutionnelles et financières qui ont donc porté atteinte au positionnement de la CEDEAO dans la région et ont miné sa capacité donc à gérer cette crise sécuritaire-là.
Alors, dans votre rapport, vous écrivez que la CEDEAO devrait réviser son régime de sanctions à l'égard des auteurs de coups d'État. Est-ce à dire, Faïraman Rodrigue Conné, qu'il faudrait supprimer les sanctions?
Non, pas du tout. Les sanctions sont utiles et elles sont nécessaires. Il ne peut pas avoir de règles sans sanctions. Sinon, les règles n'auront pas de sens. Donc, un régime de sanctions pour nous réviser inclurait des critères d'application plus clairs, tout en restant flexibles et veillant surtout, et ça c'est important, à réduire autant que possible les effets sur les citoyens innocents, de sorte à limiter un peu les effets nocifs et aussi d'adopter une posture plus systématisée et plus adaptée aux différents contextes. Aussi, on pense qu'il faut une prévisibilité dans la gradation des sanctions sur la base des critères objectifs et une clarification des déclencheurs des différents niveaux de sanctions pour que l'instrument soit beaucoup plus efficace.
Voulez-vous dire que fermer les frontières avec le pays putschiste, comme cela a été fait au Mali en 2021 et au Niger en 2023, c'est une sanction trop lourde?
C'est une sanction surtout sur laquelle tous les acteurs n'étaient pas totalement d'accord et qu'ensuite ces sanctions se sont appliquées dans un contexte particulier de pays qui sont frappés par une menace sécuritaire de longue date où les populations déjà pauvres sont très vulnérables. Donc ces types de sanctions peuvent être contre-productives et on l'a vu, elles l'ont été dans la mesure où elles ont plutôt renforcé l'assise populaire des militaires, dans la mesure où ces derniers se sont basés sur ces mesures-là pour accroître le sentiment patriotique et renforcer la posture souverainiste de l'État.
Que répondez-vous à ceux qui pourraient vous reprocher d'être trop complaisants à l'égard des auteurs de coups d'État?
Il ne s'agit pas d'encourager des transitions militaires longues, ni aussi d'encourager l'inclusion des militaires dans la sphère politique. Nous conseillons une approche beaucoup plus pragmatique dans un contexte qui a totalement changé, où les institutions régionales, notamment la CEDEAO, ont du mal à appliquer l'organisation rapide des élections pour des transitions assez courtes. Et donc, une approche plus pragmatique indiquerait comment on peut accompagner le contenu de cette transition en mettant l'accent sur la sécurité, l'éducation, la santé, de sorte à stabiliser dans un long terme ces États-là.
Donc, ce sommet de dimanche prochain à Abuja, peut-être l'occasion d'un début de refondation de la CEDEAO?
Il faut une réforme à la fois des institutions, du modèle de fonctionnement de la CEDEAO, mais également de ses instruments, notamment de son protocole pour la gouvernance, d'une révision du régime des sanctions, des modalités d'usage de la force. C'est une réflexion collective des chefs d'État qui doivent être également les porteurs de ce changement en posant des actes qui vont dans le sens du respect des principes et des normes démocratiques de l'institution.
Faïramment, Rodrigue Connet, je vous remercie.
Faïramment, Rodrigue Connet, chef du projet SEL à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité basé en Afrique. Il répondait à Christophe Boisbouvier. Et voici l'actualité des matières premières avec Marie-Pierre Olfan. Le producteur de diamants russe Alrosa vient d'acheter un gisement d'or dans l'extrême-orient russe. Cette acquisition n'a rien d'étonnant pour le groupe minier qui est sous sanctions occidentales.
Les investissements ne se font jamais à la légère et encore moins quand on est une société sous sanctions qui a vu son bénéfice net chuter de 15% l'année dernière. Un bénéfice qui pourrait se réduire encore un peu plus en 2024. Le cœur de métier d'Alrosa, c'est le diamant, mais un diamant qui a perdu de son éclat. Après les États-Unis en 2022, les pays du G7 ont uni leur voix pour interdire à compter du 1er janvier l'importation des pierres en provenance de Russie. Dans ce contexte, l'annonce de l'acquisition d'un nouveau gisement n'a rien d'anodin. Il s'agit de relancer la stratégie de diversification opérée par le groupe russe il y a plusieurs années. Alrosa produit aujourd'hui 180 kilos d'or, mais pourrait atteindre avec le rachat du gisement situé dans l'extrême-orient russe 3,3 tonnes par an. Économiquement, le contexte est porteur. Les prix du diamant ont fortement reculé depuis 2 ans, alors que ceux de l'or ont flambé. Le marché de l'or est par ailleurs réputé plus liquide que le diamants, c'est-à-dire que les transactions y sont plus faciles, moins coûteuses et donc plus nombreuses. Le patron d'Alrosa n'a pas caché qu'en élargissant son portefeuille, il cherchait à accroître la stabilité financière à long terme de son entreprise. Il ne faut pas oublier également qu'Alrosa possède une ligne de bijoux. Produire plus d'or lui permettra d'augmenter son approvisionnement direct. Un industriel du secteur résume, c'est une opération raisonnée. Alrosa a l'expérience nécessaire et l'investissement consenti n'est pas énorme à ce stade. Un investissement qui a peut-être été facilité par les liquidités injectées par le ministère des Finances de Russie. Pour remettre le groupe à flot, l'État rachète en effet depuis le début de l'année une partie des diamants d'Alrosa.
Marie-Pierre Olfan sur RFI.
RFI Matin.
Grand reportage. Aujourd'hui, nous allons au Kenya, à moins de 3 semaines maintenant du coup d'envoi des JO de Paris. Le Kenya, c'est une nation olympique, célèbre pour ses coureurs et leurs records. À ce jour, le pays d'Afrique de l'Est a remporté 113 médailles olympiques. Sur les hauts plateaux kenyans, on raconte que la course à pied coule dans les veines, mais ce succès se paie en réalité très très cher. Grand reportage, Gaël Lalex.
My name is Aida Cherotich.
Je m'appelle Aida Cherotich. J'ai 25 ans et je viens de Marrakech. À l'école, je courais, j'aimais ça. Alors ma mère m'a dit, pars, va à Iten, c'est la maison des champions.
Home of champions.
Parlez-moi de votre vie à Iten.
I wake up at 5, I will go for training.
Je me lève à 5h et je vais m'entraîner. Je cours 10 km tranquillement, puis à 9h, je rejoins un groupe. On court entre 17 et 20 km, puis je rentre. Je dors 1 heure et je ressors pour chercher du travail. Je frappe aux portes des maisons, je demande s'ils ont du travail, comme laver les vêtements. Et parfois, on me donne de l'argent ou de la nourriture en échange.
And somebody give me a money or food.
Ça fait combien de temps que vous vivez comme ça à Iten?
3 ans.
Et vous vous donnez combien de temps pour rencontrer le succès?
Quand je trouverai quelqu'un qui sera prêt à me payer la nourriture et le loyer, alors en 6 mois, j'aurai du succès. Je n'abandonnerai jamais car je veux accomplir quelque chose. Et je veux retourner dans mon village et aider les gens avec mon argent.
Il
n'y a pas d'autre moyen d'avoir du succès que de courir?
No, my talent is running.
Non, mon talent, c'est la course. Je ne peux rien faire d'autre pour réussir.
To be successfully.
Many young athletes,
beaucoup de jeunes athlètes, surtout les femmes, sont de très jeunes filles. Certaines ont été envoyées par leurs parents, dont la majorité ne savent pas à qui ils les envoient. Ainsi, elles deviennent des proies.
Viola Bersou est enseignante en primaire à Iten, militante pour la défense des droits des enfants et membre de l'association Tirop Angels.
It's
Elles sont forcées de s'engager dans des relations abusives. Parce que combien de temps peuvent-elles s'entraîner sans nourriture, courir sans chaussures? Et donc, une fois qu'elles sont approchées, elles deviennent victimes de violences. Pour elles, si un homme les gifle, c'est OK, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il subvient à leurs besoins, il n'y a pas de mal.
Et une fois que ces coureuses ont du succès, comment est-ce que ces hommes abusifs se comportent avec elles?
La plupart les abusent financièrement. La plupart du temps, ils investissent ensemble. Et puis, il devient ensuite très difficile pour la coureuse de partir. Parce que vous avez construit une maison, vous possédez un terrain, mais ils sont au nom de votre mari. Alors, comment pouvez-vous partir?
Au Kenya, les damnés de la course. Grand reportage de Gaël Lalex à 19h40, temps universel. RFI Matin, c'est ici et c'est avec Nathalie Amar pour les deux prochaines heures. Bonjour Nathalie.
Bonjour Arnaud, bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent. Nous sommes le jeudi 4 juillet. Les Britanniques sont appelés aux urnes pour des élections générales qui devraient marquer la fin de près de 14 ans de pouvoir conservateur. On sera en ligne de Londres dans deux minutes. La Grande-Bretagne qui va rappeler sans doute au pouvoir les travaillistes. Et en France, le Rassemblement National en passe de gouverner après son score historique aux européennes. Dans trois jours, un second tour décisif pour les législatives. On en parle à 8h20 avec notre invité Bernard Guetta, député Renew au Parlement européen. D'ici 10h encore, la guerre en Ukraine, en toile de fond des Jeux Olympiques de Paris. Anastasia Becquieu nous dira la vérification qu'ont subi les sportifs russes et biélorusses avant la compétition. A tout de suite.
Appelez-nous, exprimez-vous. Chantal Leroux.
Joe Biden est-il apte à exercer un second mandat? Depuis sa prestation calamiteuse face à Donald Trump, des poids lourds du Parti démocrate s'interrogent publiquement sur l'état de santé du président. Qu'en pensez-vous? Joe Biden doit-il se retirer? Et qui pour le remplacer dans la course à la Maison-Blanche?
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Qui sommes en français? Qui sommes-nous? Se demande la compagnie Barreau d'Evel dans des performances pluridisciplinaires pleines d'humour. Salade, tomate, oignon, répond le seul en scène de Jean-Christophe Folli qui raconte les êtres en quête d'identité et de terroir et s'attaque aux clichés sur les racines et l'héritage.
Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.